sont dans la nature.
Quand les initiatives prennent vie à la campagne. Bonjour à tous et bienvenue dans Tous les goûts sont dans la nature. Ce mois-ci, je vous emmène écouter Emilia de la compagnie Tau.
Tous les goûts sont dans la nature.
J'ai posé mon micro un soir chez Emilia, dans sa nouvelle maison, un peu chamboulée par les travaux en cours. Nous avons échangé autour de sa vie professionnelle, sa vie d'artiste, avant de terminer la soirée autour d'un verre. Le premier mot qui me vient à l'esprit lorsque j'évoque son travail, c'est poésie. C'est pour moi ce qui se dégage vraiment de ses spectacles, au milieu d'autres sensations parfois difficiles à exprimer avec des mots. Emilia, elle, parle plutôt de rencontres. Le cirque est avant tout un langage qui permet d'aller à la rencontre de l'autre. Bonjour Emilia.
Bonjour Anne.
Alors c'est pas la première fois qu'on se rencontre, on s'est déjà croisés en résidence et cet été j'ai eu l'occasion d'aller voir ton spectacle Contre-courant qui se passe en pleine nature, c'était sur les bords de l'Indre et ce qui me surprend à chaque fois dans tes spectacles c'est la lenteur, les gestes silencieux et la poésie qui se dégage, ça me surprend, c'est assez intriguant. C'est pas du tout du cirque classique. Moi, j'ai l'impression de partir dans une sorte de voyage poétique. Est-ce qu'on peut définir avec ces mots ta compagnie, la compagnie Tau ?
Je ne les ferai pas toutes seules, mais je suis ravie que tu aies défini comme ça notre travail, mon travail. J'ai été très captivée par la danse buto. La danse buto, c'est une danse japonaise qui naît par des artistes japonais qui vient en Europe après Hiroshima. Et une des choses qui caractérise cette danse, c'est aussi la lenteur du geste. Mais aussi, je sens que mon âme, elle est lente. Bien que mon activité quotidienne est très rapide, je suis très efficace, je fais 2-3 choses à la fois, je crois que mon âme est lente.
Et ça se ressent dans tes spectacles parce que Contre-courant, on était une vingtaine de spectateurs à peu près, si je me souviens bien, et on était en pleine nature, on vous a suivi, il y avait un silence assez impressionnant et on s'est laissé embarquer, on n'entendait plus que les bruits de la nature. Et quand on regarde la présentation de ta compagnie sur votre site, il y a pas mal de mots qui m'ont paru un peu mystérieux. Alors tu parles de cirque expressionniste, de spectacle intimiste, mettre en mouvement les corps, les objets, les images, mais aussi les mots, les mémoires et les paysages. C'est un peu mystérieux, non ?
Est-ce que tu l'as retrouvé dans le spectacle Contre-courant que tu as vu ?
Oui, il y a des choses que j'ai retrouvées. Il y a le côté poétique et puis la sensibilité. On avait envie de se laisser porter. Alors, j'ai plus toutes les sensations que j'ai ressenties à ce moment-là, mais c'était apaisant. Voilà, je me souviens de ça. On se sentait apaisé.
Et Contre-courant a été créé en 2022 pour être tourné au bord de la Loire. Et avant la création de ce spectacle, avec toute l'équipe, on a traversé deux, trois ans où on était vraiment imprégné dans la nature et on cherchait vraiment cette connexion avec plusieurs intervenants, danseurs, musiciens, personnes qui pratiquent dans la nature. Et notre objectif, c'était celui-là de rencontrer le vivant et tisser une communication. Donc on a choisi effectivement les silences ou le paix des sons pour donner aussi à entendre tous les sons qui est autour de nous et pour créer ce lien des discussions. C'est aussi pour ça que Contre-courant est particulièrement lent parce qu'on attend aussi la réponse de l'autre vivant qui parfois c'est imperceptible ou parfois elle est plus silencieuse que celle que l'être humain, que l'activité de l'être humain. Est aussi un des objectifs de ces spectacles, c'était de pouvoir inviter les publics à se connecter avec cette nature. Donc ça nous a paru la façon la plus simple pour nous de pouvoir tisser ces liens entre tous les êtres.
Tous vos spectacles sont un peu sur, dans cet esprit-là ou il peut y avoir des choses très très différentes ?
Il peut y avoir des choses différentes, mais j'étais rejoint comme le langage poétique, il rassemble toutes nos créations. Et je pars souvent d'une question qui me préoccupe ou qui me rend curieuse dans ma vie privée, notamment pour Contre-Courant, c'était la relation à la nature, pour Je n'ai pas des jambes, j'ai des ailes, la relation avec l'handicap physique, et actuellement avec les banquets ou l'éloge de l'amour, c'est les questionnements sur l'amour. Donc je pars toujours d'une envie personnel et je l'explore, je recherche beaucoup sur cette thématique et avec mon langage à moi, donc circassien et poétique, j'essaye de trouver les réponses ou donner les questions. C'est pas sûr que qu'il y a toujours les réponses.
Alors il y a un mot que j'ai découvert en découvrant ta compagnie, c'est l'antipodisme, le jonglage avec les pieds, c'est bien ça? C'est quelque chose qui n'est pas courant, c'est un peu ta spécialité?
C'est absolument ma spécialité. J'ai commencé en tant que jongleuse et par hasard j'ai commencé à me lancer des objets sur les pieds. Et petit à petit, j'ai commencé à me lancer des balles de jonglage et des massues sur les pieds. Et grâce aussi au soutien des amis, des personnes qui étaient autour de moi à ce moment-là, je continuais. Et me suis spécialisée dans l'antipodisme avec des balles de jonglage. Donc à l'époque, donc en 2001, ça fait 25 ans que c'est mon métier, il y avait vraiment peu de monde qui faisait ça. J'ai deux exemples, Jean-Daniel Fricker qui mettait une balle sur les pieds en position, dans une position de yoga, et un autre jongleur américain dont j'avais vu des vidéos qu'il posait des balles sur les pieds. Et à l'époque, il n'y avait pas d'autres exemples. Donc pour moi, ça, je me suis vraiment appropriée de cette technique. Et quand j'ai commencé à pratiquer, je ne savais pas qu'est-ce que c'était possible et qu'est-ce que ce n'était pas possible. Donc ça m'a vraiment permis de m'ouvrir, de m'amuser, d'être curieuse, de chercher. Je n'avais pas d'exemple dans cette technique. Et cette chance que j'ai eue, ça m'a permis aussi que ma carrière, si on peut dire carrière, a été plutôt facile, je dirais. Dès que j'ai sorti mon premier numéro, ça a été vraiment très, très bien accueilli parce que c'était totalement nouveau. Jamais personne n'avait vu cette technique-là. Donc, ça m'a permis de me faire connaître, surtout dans les réseaux donc professionnels du jonglage, d'une façon assez immédiate. Après, bien évidemment, comme tout le monde, c'est tous les jours, il faut toujours confirmer, s'apprécier déjà soi-même, se faire connaître. Le travail, il est long, bien évidemment.
T'as toujours été artiste de cirque ou non?
Non, j'ai une maîtrise en droit international et européen. Et c'est pendant que je faisais l'Erasmus à Nantes que j'ai rencontré les jonglages. Et donc j'ai pris ma maîtrise et mon mémoire c'était sur les statuts juridiques de l'artiste de cirque en droit international. Le maître de maîtrise, il m'a dit « Ah, reste faire le doctorat, c'est intéressant, ta recherche. » Moi, je dis « Non, je pars faire l'école des cirques.
» Il y avait déjà quelque chose, le choix du thème n'était pas anodin quand même.
Et ben, ça s'est fait parce que finalement, j'ai fait 2 ans à la faculté de Nantes, une première année en Erasmus, et la deuxième année, donc en licence, et la deuxième année, j'ai choisi de rester là-bas en maîtrise. Et donc, j'avais déjà commencé à jongler la première année. J'ai suivi mon intuition, je ne m'étais pas donné un objectif. Donc, j'ai continué encore les études. J'ai étudié la traduction littéraire. Donc, j'ai fait un master en traduction littéraire italien et espagnol. Parce que je suis italienne, oui, mon accent, c'est pas pour rien. Et ça m'a permis donc de continuer aussi la création, parce que voilà, c'était grâce aussi à une bourse que j'avais eue pour faire ces masters-là que j'ai pu continuer à me concentrer sur la création de mon premier solo.
Ton premier solo, tu l'as créé il y a longtemps?
Je l'ai créé en, je dirais, 2005. Je ne suis pas sûre de la date. Il s'appelait Tombé, donc c'était un format court où j'ai mêlé danse buto et jonglage avec les pieds. Et pour moi, c'était ma plus belle création, la plus vraie, la plus sentie, la plus puissante.
Et tu la joues encore ?
Non, je ne les joue plus. Non, je les jouais pendant quelques années et après, la sensation, c'était que quand elle était devenue parfaite, j'ai arrêté. Parfaite dans le sens, ça ne tombait plus, je la connaissais vraiment très très bien.
D'accord.
Oui, c'était... son cycle, c'était fini.
Il fallait passer à autre chose.
Absolument, oui.
La compagnie Ito, elle a été créée en 2009.
Tout à fait, oui.
Ouais. Donc, elle est installée dans la région, en campagne Barichonne. Elle accorde une grande place aux actions du territoire. C'est important pour toi ?
Oui, oui, tout à fait. Donc, la compagnie est basée dans les petits villages de la Berthénou. Toujours, la compagnie a donné cette place aux actions culturelles. Donc, avant de s'installer vraiment à la Berthénou, moi et Bertrand, donc Bertrand Desporteur, qui est cofondateur de la compagnie, nous avons beaucoup voyagé, fait des actions culturelles plutôt à l'étranger, que ce soit en Palestine, à l'école des cirques de Naplouse, que ce soit en Roumanie. Voilà, j'aime beaucoup voyager. Après, quand on s'est installé vraiment ici, donc ce désir d'aller à la rencontre de tout type de public, ça s'est développé sur les territoires. Ce que j'aime, c'est... que les spectacles, nos activités soient ouverts à tout type de public et qu'ils puissent avoir vraiment une égalité d'accès à la culture. C'est évident aussi parce que quand on organise des événements sur les territoires, la plupart des fois, notre politique, c'est un très prix libre. Bien évidemment, tout ça, c'est possible grâce aux subventions de l'État que nous recevons.
Comment ça se passe ? Vous faites régulièrement des spectacles sur le territoire ?
Ça dépend des années, des envies, des projets, du temps. On organise tous les ans des événements sur les territoires. Donc ça peut être sous la forme d'une programmation, donc des non-spectacles, mais aussi on invite des autres collègues. Ça peut être sous la forme des tournées lentes. C'est des projets que j'aime beaucoup. Donc on a fait deux tournées à pied accompagnées par des ânes en 2005 et en 2009, donc un sur les chemins des Metzonaires dans l'Indre et l'autre sur les plateaux des Mille Vaches à Limousin. Et avec Contre-Courant, on a fait donc deux tournées lentes en vélo, une d'un mois et demi sur la Loire et une autre cet été sur l'Indre. Et donc ces tournées, elles nous permettent vraiment de rencontrer tout type de public, de faire participer à nos activités tout type de personnes qui ne seront pas forcément venues dans une salle de spectacle. Et d'autre côté aussi, on donne des ateliers, des cirques. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand c'est des ateliers avec des participants d'âges différents. Par exemple, j'adore donner des ateliers cirque aux enfants dans des EHPAD, à titre d'exemple. Vraiment, cette rencontre m'intéresse beaucoup.
Oui.
Et j'aime beaucoup ça, en fait, cette rencontre entre les personnes. En fait, pour moi, les cirques, c'est aussi... Bien évidemment, c'est une technique, ça peut être une profession, c'est une façon de s'exprimer, mais ça, c'est aussi une rencontre. Et après, ce que je développe depuis longtemps, c'est des actions culturelles liées à la création de nos spectacles. Et d'ailleurs, ça sera un des projets qu'on mènera au lycée Georges Sand à La Châtre. Et on vient de faire une semaine dans les foyers des vies Algira-Orsène, donc que c'est un foyer des vies pour personnes qui ont subi des traumatismes crâniens. Et donc, ce que j'adore, c'est développer avec tout type de public, donc jeunes, personnes handicapées, personnes très âgées, femmes, voilà, développer des ateliers, des recherches laboratoires où je pose les mêmes problématiques que je me pose actuellement pour la création de mes spectacles et les thématiques sont du coup développées avec les publics. Donc actuellement, pour les banquets ou les loges de l'amour, sur la question de l'amour, je suis accompagnée par Emmanuel Dolo, qui est un ancien professeur de philosophie et qui actuellement est metteur en scène et musicien. Et on propose de rentrer dans notre recherche actuelle, donc les écrits philosophiques autour de l'amour, sur la thématique de l'amour. Et on partage ces lectures avec les publics, on analyse les textes, on écrit. Et moi, d'un autre côté, j'invite à utiliser son propre corps. Donc, je peux donner des ateliers, des manipulations d'objets, des mouvements. Et on essaye donc vraiment de combiner les deux techniques, comme on fait en création d'un spectacle, mais avec les publics. Et ça, pour moi, c'est important parce que, bien évidemment, je suis nourrie par ces processus, autant que le public est nourri par ce que nous pouvons donner.
Et la rencontre, elle fonctionne à chaque fois?
Oui, je ne sais pas après qu'est-ce qui reste, mais on l'a fait à chaque fois fonctionner. En tout cas, j'aime toujours me souvenir les choses positives, notamment Algira. Donc, ça fait une semaine. Moi, j'étais très touchée de voir, par exemple, des personnes qui ne peuvent plus utiliser bien leur corps suite à leur accident, jongler ou de se mettre en mouvement. Parce que pour moi, ces gestes, du coup, prennent vraiment encore une autre valeur, sensible, poétique, puissant. Et donc, c'est ces gestes que je cherche dans la perfection, quand je m'entraîne. En fait, finalement, ce que c'est important, c'est que cet être humain qui est derrière, en fait, qui fait le mieux qu'il peut faire avec ce qu'il a. Et donc pour moi c'est important, et aussi les lectures qu'on a fait avec Emmanuel, c'était très plaisant de discuter avec tout type de public des les mêmes thématiques, de la même importance, de les mêmes questions que nous on se pose. Et donc aussi, à l'occurrence, parler sous le spectre des textes philosophiques a permis de rentrer dans l'intimité de chacune et chacun, mais sans se tourner vers un discours des comptoirs ou au café. Et donc, c'était très puissant parce que finalement, toutes les thématiques sont abordées sans tabou, parce qu'il y a ces prismes de la philosophie aussi. Quand je joue, j'aime beaucoup nourrir les gestes qui pourtant écrits avec une vraie expérience vécue derrière. Je pense que, par exemple, quand je prendrai cette balle et je penserai à cet homme qui tremble quand il jongle, voilà, ses mouvements, il sera plus vécu que si c'était juste écrit.
Tu as parlé d'un de tes spectacles, Taxi Moira, c'est comme ça qu'on dit ?
On dit comme ça, oui.
D'accord.
Oui.
Et pourquoi ce nom, Taxi Moira ?
Alors, Moira, c'est les destins en grec. Parce que Taxi Moira, ça naît aussi de ma passion pour la mythologie grecque. Donc, Moira, c'est le destin. Le spectacle, c'est un voyage vers le destin. Taxi, parce que dans le spectacle, il y a cette idée des bateaux. On amène les publics comme dans un bateau, venir faire les voyages avec nous. Taxi, par contre, ça donnait une curiosité. Comme taxi, c'est un mot que tout le monde connaît.
Oui.
Donc, c'est comme, on peut un peu deviner que c'est un passage vers Moira, le destin. Mais en vrai, ça pourrait être quelque autre chose vraiment très mystérieux. Donc cette combinaison entre Moira, ces mots grecs de la mythologie, et taxi, donc un mot contemporain, ça me plaisait aussi.
Alors tout à l'heure, tu disais que vous aviez fait des actions culturelles à l'international. Vous êtes intervenu dans des écoles de cirque en Palestine, au Maroc, vous êtes allé en Roumanie. Ils ne sont pas tout à fait anodins, ces choix. Comment vous êtes arrivé là-bas?
En Roumanie, on est arrivé dans un festival organisé par un groupe de personnes françaises et roumaines, donc Casa de Cluny. Et c'était un projet qui mêlait les cirques et l'action sociale avec les enfants de la rue. Donc ça fait une dizaine, quinzaine d'années, il y avait beaucoup d'enfants dans la rue en Roumanie. Ces projets très touchants et très engageants, ils allaient des jours dans la rue rencontrer les enfants, et des jours ils les invitaient eux à prendre des ateliers au chapiteau. Donc les cirques, ça permet une rencontre directe aussi avec les personnes. J'ai l'impression que ça nous donne un langage direct. Il n'y a pas besoin de trop expliquer. C'est du cirque, on fait de l'acrobatie, du jonglage. C'est assez touchant et clair. Et donc, grâce à ces projets cirques, ils pouvaient rencontrer les enfants qui habitaient dans la rue. Donc, lui donner des soins de santé, les papiers, les nourrir, lui donner une possibilité de se laver. C'était vraiment la base de l'humain. Et donc, ils organisaient, donc je parle au passé parce que l'association a fermé ses portes, et ils organisaient tous les ans un festival, ils appelaient des artistes pour venir jouer et partager ces moments avec les enfants, les jeunes. Et en Palestine, c'était une école de cirque, c'est une école de cirque, à Naplouse, et Cirque à Saguir, que je salue, et que à laquelle j'envoie beaucoup de courage. Donc c'est un projet donc de cirque, d'école des cirques en Palestine. Et donc moi j'adore voyager et j'aime bien combiner le travail, les soutiens, la rencontre à mon travail. Et donc on était allé là-bas, je donnais des ateliers pendant une ou deux semaines, j'avais joué mon spectacle. Et ça a été un des pays les plus accueillants dans lesquels je suis allée. On était arrêtés dans la rue et alors on se disait « Ah, il va nous demander de l'argent !» Vous savez, souvent c'est comme ça. Et en fait, non, il nous invitait à prendre un café. L'échange, c'était vraiment important, c'était essentiel. Encore maintenant, nous sommes en relation avec Circa Sagir. On a organisé une collecte de fonds cette année pour participer à leurs dépenses, vu aussi la situation politique complexe. Et on espère continuer les échanges, accueillir ici des étudiants dès là-bas.
J'ai l'impression que les voyages à l'étranger, il y en a un petit peu moins maintenant.
C'est la vie personnelle qui fait qu'avec la naissance d'un enfant, c'était plus simple de développer notre activité localement. Ça a permis aussi de se faire connaître, de tisser le réseau local. Le projet actuel, c'est continuer à exister sur le territoire, mais tourner plus dans toute la France et pourquoi pas reprendre les voyages.
L'envie est toujours là.
Oui, pleinement. Aujourd'hui, je disais à mon collègue Michel Touzeau, Michel, avec lequel j'ai joué un spectacle, Taxi Moira, chez Michel, il faut qu'on organise une tournée au Japon, c'est un de mes pays préférés. Et donc, si, certainement. Après, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de logistique, mais c'est toujours mon grand amour, les voyages, la découverte, la rencontre, les dépaysements.
Depuis le début, depuis le départ pour Erasmus sur Nantes.
Depuis le début, je pense que l'Erasmus s'ouvre beaucoup à ça. Oui, c'est un métier avec lequel on peut beaucoup voyager si on a envie. Je ne pourrais pas être que dans les locales parce qu'on a envie aussi de faire autre rencontre, de faire autre expérience. Moi, j'aime bien aller très loin aussi et très proche, les deux, jouer dans des belles salles équipées avec un accueil parfait et aussi dans des lieux où il n'y a rien du tout et rencontrer quelqu'un qui est très expert dans la matière et d'autres personnes qui se laissent simplement porter par la vérité de ce qu'on est en train de lui raconter.
Donc le Japon, ça risque d'être un des prochains voyages.
J'espère. J'espère.
tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love.
C'était Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen, morceau choisi par Emilia. Vous pouvez retrouver la compagnie To sur les réseaux sociaux, dont Facebook, pour avoir les prochaines dates de spectacle. Le banquet ou l'éloge de l'amour est en cours de création avec trois résidences à venir. Une au lycée Georges Sand à La Châtre, une autre au lycée Jean Giraudoux à Châteauroux et enfin une dernière au lycée agricole à Bourges. La sortie du spectacle est prévue en décembre 2026 à l'Atelier du Plateau à Paris. Emilia a également un projet qui mêle art et science et qui est porté par la Maison du Jonglage à Paris. C'est un travail de recherche mené avec Marie Calmont, chercheuse en anthropologie et qui travaille sur les grands singes. L'objectif, c'est de comprendre comment utiliser les pieds d'une façon différente peut former une personnalité ou une présence dans le paysage. La présentation de ce travail se fera lors du Festival de la Maison du Jonglage au printemps 2026. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain en compagnie de Romain. À bientôt !